Oui, salut, c'est Steph, là, de Bretagne. Bah, je suis sur mon parking, là, en train d'attendre pour aller bosser. J'écoute ton émission sur les Comores. Putain, j'ai vraiment envie de me barrer. Je me dis, putain, qu'il y en a des trucs à faire. Sauver les tortues, quel programme. Super émission, vraiment, félicitations. C'est bien de sortir la nuit. Parce que les tortues, il faut les sauver, quoi. Elles sont mal barrées. C'est nickel. Bah, je crois que je vais y faire un tour, aux Comores, hein. Dès que j'ai un moment, je me casse. Allez, je vous embrasse. Ciao.
Bonjour les AMG, n'oubliez pas ce soir, c'est immeuble en fête, c'est la fête des voisins, alors faites la fête.
Bonjour là-bas, l'émission avec Bruno le Forgeron, génial, ouais, c'est vraiment génial. Mais alors, les commentaires des auditrices cul serré et cul pincé, ça c'était encore plus génial. Je crois même que ça m'a filé une érection. Allez, salut.
C'est bien connu. Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Au fait, vous l'avez entendu la dernière, le 26 mai 2007, juste avant le décollage, un groupe de passagers du vol Paris-Bamako, honnêtes citoyens par ailleurs, ont soudain été pris dans quel élan criminel, pour ne pas dire terroriste, à l'encontre de braves policiers auxquels ils se sont opposés. Ces derniers essayaient pourtant d'accomplir leur mission, c'est-à-dire obliger à coups de poing dans le ventre et par strangulation un dangereux Malien en voie d'expulsion à demeurer immobile. Le vol a été finalement annulé et le récalcitrant évacué, inconscient mais docile. Quant aux passagers inexplicablement atteints de folie solidaire citoyenne, ils ont bien sûr été menacés de poursuites, voire d'arrestations, ce qui les a calmés. Dormez, braves gens, tout va bien. La France est un beau pays et nos honorables gouvernants veillent sur nous. Mais attention, le réveil n'en sera que plus dur. C'était Catherine à Chambéry. À bientôt et merci.
Salut Daniel, je viens d'apprendre sur France 2, à l'édition du midi, là, une fois n'est pas coutume, que Chavez avait interdit la chaîne de télé TV Caracas. Alors, voilà, toi qui avais dans plusieurs émissions fait des louanges à ce personnage pourtant peu fréquentable, j'espère que tu auras à cœur de transmettre d'une manière ou d'une autre cette info aux AMG. Les dictateurs, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui s'attaquent à la liberté de la presse, ne méritent que notre mépris et doivent être combattus. La liberté, la tienne, la nôtre, est à ce prix. Merci.
C'est un message concernant les attaques des médias perpétrées contre Chavez suite à sa décision de ne pas renouveler une concession à la chaîne de télévision privée RCTV. Alors face à ces attaques, il est quand même utile de rappeler plusieurs choses. D'abord, cette chaîne est une chaîne hyper commerciale qui a déjà été condamnée plusieurs fois pour diffusion de programmes hyper violents et pornographiques, pour avoir injurié des personnalités politiques, pour avoir traité de singes même des ambassadeurs africains venus rendre visite à Chavez en 2004. Bref, ce n'est que quelques exemples parmi beaucoup d'autres. C'est aussi une chaîne qui a ouvertement soutenu le coup d'État perpétré contre Chavez en 2002. C'est une chaîne qui manipule constamment l'opinion publique. TF1 à côté, c'est une véritable chaîne culturelle et gauchiste, je vous assure. Bref, défendre cette chaîne au nom de la liberté d'expression, cela nous paraît un petit peu exagéré. Surtout qu'en matière de médias d'opposition au Venezuela, on a tout ce qu'il faut. Il en reste encore plein, plein, plein. Et puis, ce que les médias oublient de nous dire, c'est que deux nouvelles télés ont vu le jour depuis que Chavez est président du Venezuela. Deux télés non commerciales qui donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas et qui rendent visibles les mouvements sociaux d'ici et d'ailleurs. Alors, ne nous trompons pas d'ennemis et n'oublions pas que derrière Chavez, il y a tout un peuple, tout un mouvement, un immense mouvement populaire qui lutte pour un monde meilleur. Voilà.
Salut Daniel, c'est Marc à l'appareil. Je serais très curieux de connaître le point de vue de M. Chomsky quant à la confiscation d'une télé libre par M. Chavez. Ce serait l'occasion de réactualiser les formidables reportages qui ont été diffusés sur cette antenne.
Eh bien, c'est en effet une très bonne question. Il se peut que Chomsky s'exprime sur cette affaire, dans, sur ce site que, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, qui s'appelle Znet, Znet. Il se peut qu'il soit amené à s'exprimer. Et effectivement, la fermeture, la confiscation de cette télévision vénézuélienne fait polémique, y compris et comment dans l'équipe de la Bassi. J'y suis, je voudrais dire... À cet auditeur qui dit que nous avons chanté les louanges de Chavez, c'est faux. On a fait une série de reportages au Venezuela où on a essayé de dépeindre comme on peut ce qui se passe dans ce pays, ce mouvement populaire, les Vénézuéliens, et on n'a pas du tout, en aucun cas, chanté les louanges d'Hugo Chavez. Mais il faut rappeler que ce n'est en rien un dictateur, même si ça déplaise, c'est un président qui a été élu et réélu démocratiquement dans ce pays. Voilà, alors il se pourrait bien que Noam Chomsky soit plutôt favorable à la liberté d'expression. Ce serait vraiment le moment d'appliquer ce qu'il nous avait dit, c'est-à-dire qu'on doit laisser, si on est un bon voltairien, un bon homme des Lumières, c'est-à-dire qu'on doit défendre la liberté d'expression de ceux avec lesquels on est pas d'accord. Aujourd'hui, on va se rendre avec François Ruffin et Pascal Le Pascariello dans un endroit où je pense que quand même assez peu d'entre vous se sont rendus, quoique, on ne sait pas, dans une assemblée d'actionnaires. Ah ! Voilà un endroit amusant, vivant, plein de gaieté, d'entrain et d'avenir. Mais évidemment, on ne va pas y aller seul. On va y aller avec des ouvrières d'une entreprise qui s'appelle ECCE. On les a déjà rencontrées au cours de nos reportages. Et ces ouvrières, elles essayent de rencontrer Bernard Arnault, qui est le patron de LVMH. Je ne vous apprends rien. Pourquoi veulent-elles le rencontrer ? Parce qu'elles travaillent pour un sous-traitant de LVMH. Elles sont des petites mains, des couturières extrêmement talentueuses. Et délocalisation, plus de boulot, elles sont virées d'ici à la fin de cette année. Il y a toutes les chances ou les malchances du monde, comme on voudra, que ces 147 femmes, femmes pour la plupart, perdent leur emploi. Ce sont des femmes qui sont employées dans cette entreprise. Et bien, elles ont eu l'idée de venir à cette assemblée d'actionnaires. Chose très importante, chaque année, les actionnaires sont réunis par la firme LVMH et apprennent les prouesses et les résultats extraordinairement bons de l'entreprise. Et comment faire pour être présent là et s'exprimer, puisque c'est si difficile? Eh bien, elles ont eu l'idée d'acheter des actions. Et oui, si vous achetez une action, vous devenez actionnaire, et à ce titre, vous pouvez participer à l'assemblée des actionnaires et poser des questions, poser vos questions, et on doit vous y répondre et vous répondre. Et en l'occurrence, eh bien, c'est Bernard Arnault, puisqu'il est le président, qui est amené à vous répondre. Alors voilà, c'est ce qu'elles ont fait, et c'est ce voyage qu'on va faire avec elles depuis leur petite ville de Poix du Nord, près de Maubeuge, jusqu'à Paris. Pascal Le Pascariello va les accompagner. Et puis, à Paris, on retrouvera aussi d'autres salariés qui sont un petit peu sur le carreau, ceux de la Samaritaine. Et oui, il se passe tout, on trouve tout à la Samaritaine. Maintenant, on trouve rien, il n'y a plus rien, c'est fermé. Et cet ensemble, vous le savez, a été racheté par LVMH dans la perspective probablement d'en faire non seulement un magasin, enfin une suite de magasins, mais un quartier très luxueux. C'est le projet, dit-on. Mais ça s'est passé évidemment par des licenciements et là aussi un plan social assez cruel pour les salariés, bien évidemment. Alors voilà, on va tous ensemble à l'assemblée des actionnaires, tant il est important que le dialogue social dans ce beau pays s'installe une bonne fois pour toutes. Auparavant, un seul message qu'on a retrouvé dans les archives de la base, si j'y suis, est un message qui date du 30 mai 2005. Voilà, le 30 mai 2005, c'était le lendemain du non au TCE, au traité de constitution européenne. Voilà, c'était pile poil il y a 2 ans, et c'était le 29 mai, et le lendemain, nous avions ce message parmi ceux que nous avions reçus dans la boîte vocale de la basse J'y suis, qui n'est pas sans rapport avec le sujet d'aujourd'hui, et qui, en très peu de temps, je crois que c'est 1 minute 53, c'est même exactement 1 minute 53, en dit long sur ce que nous sommes.
À Nolémine, dans le Pas-de-Calais, mon grand-père paternel était mineur de fonds. Avant 1939, il devient porion. Gréviste en 1941, sous l'occupation allemande, un ingénieur imposa à ses chefs d'équipe, donc à mon grand-père, une production accélérée et collaboratrice de charbon. Mon grand-père colla sur la gueule de cet ingénieur un magnifique coup de poing. Le père de mon grand-père était mort dans les tranchées en 1915, sous les coups de Krupp et du général Mangin. Alors, collaborer, c'était se chier dessus. L'ingénieur cassa mon grand-père en le faisant redevenir simple mineur de fonds. S'il y causait à 70%, il est mort alcoolique dans les années 80. Ma grand-mère maternelle, orpheline de guerre, élevée chez les sœurs à Roubaix, humiliée, anticléricale, rentre à la SFIO. Devient un grognard de la Troisième République. Toute sa vie d'institutrice a été une lutte contre les facilités et l'arrogance du puissant. La justice, chez elle, n'était pas qu'un mot, mais une préoccupation quotidienne. Elle était aussi engagée dans la réconciliation franco-allemande et pour une Europe de paix et sociale. Mon grand-père paternel, en 1941, devient flic pour ne pas faire le STO. Résistant de la première heure gaulliste de gauche, il a fabriqué de faux papiers et faisait passer entre les zones et contrôles des hommes de l'ombre, l'ombre dont il est devenu une part invisible. Les dirigeants socialistes contemporains au gouvernement ou ailleurs ont fait retourner plusieurs fois dans leur tombe mes grands-parents. Et ça fait trop longtemps que ces privilégiés idéologues avaient confisqué la parole et avaient chié sur la tête de Jaurès, Blum, Jean Zé et celle de mes grands-parents disparus, croyait-on. Car debout les morts. Depuis longtemps, leur mémoire guide ma main. Et là, on leur a retourné une baffe monstrueuse. Et oui, Dominique, Bernard, François, Jack et compagnie, la prochaine fois que vous brandissez l'ombre de Jaurès, la mémoire de Blum, il ne faudra pas oublier les ombres qui les accompagnent. J'ai voté à plusieurs. Ma voix s'est confondue avec celle d'André, Eva, Louis, Pierre et ma mère Claude. Salut.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Bernard Arnault, nous voilà.
Monsieur Arnault.
N'oubliez pas que maintenant je suis actionnaire.
Ah ouais.
Et votre banquier, il a dit quoi quand vous êtes allé acheter l'action?
Elle m'a regardé tout bizarrement. Elle me dit une action, mais vous ne voulez pas plus? J'ai dit non, une. Elle dit c'est pas votre genre acheter des actions. Ben, j'ai dit il faut changer dans la vie. Hein. Maintenant je vais être actionnaire.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec François Ruffin et Pascal Pascariello, l'Assemblée des actionnaires.
Bonjour, je vous rappelle à tous que la ceinture est obligatoire.
Oui.
En cas de contrôle de police, c'est 135 euros d'amende pour la personne qui n'est pas attachée, bien sûr.
Marie-Hélène, là, c'est les deux quarts qui se suivent.
Oui, et ils sont plats. Nous sommes une centaine. Je vais prendre le micro du chauffeur et je vais annoncer où est-ce qu'on va exactement. Il n'y a personne qui sait où on va exactement. Et vous pouvez écouter, je vais prendre le micro.
Je vais écouter.
Alors, notre opération aujourd'hui, nous allons au Palais du Louvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. LVMH, qui est notre donneur d'ordre à ECCE, et c'est quand même, c'est lui qui décide où on fabrique les costumes que nous fabriquons encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la journée des actionnaires et ils se rassemblent au Palais du Louvre, dans une salle. Donc il y aura sûrement Bernard Arnault. Donc nous allons manifester sans se bagarrer. Hein. Distribution de tracts. Nous allons mettre la SENO pour aussi s'expliquer pourquoi on est là, nous les salariés. Faire voir notre travail, hein, comme Marivonne, et puis c'est la chaîne de Marivonne, il y a plusieurs qui ont travaillé là-dessus, ont fabriqué des petits costumes en miniature. Alors on va les appeler Oscar et Gaston. Donc ils ont fabriqué deux costumes, un costume Kenzo et un costume Givenchy, hein, avec le logo Made in France, vous verrez. Même au costume, on construit des grands costumes, c'est déjà difficile. Mais des petits, c'est encore plus difficile. Donc vous verrez le savoir-faire de ces filles. Et c'est ce que nous allons démontrer à LVMH, que nous, on veut absolument que l'entreprise vive encore. Donc nous allons tout faire pour que cette société ne ferme pas. On ne veut pas aller ailleurs. On ne veut pas aller en Roumanie, ni en Pologne. Donc nous, on a travaillé là des années et on veut rester là. Si LVMH, il nous donnerait des costumes à fabriquer, on pourrait rester là. Donc c'est comme c'est notre donneur d'ordre, il faut absolument qu'on se fasse entendre. Voilà notre destination aujourd'hui.
Et bien voilà, vous avez tout compris, elles sont une centaine dans ces deux autocars venant de Poix-du-Nord, près de Maubeuge, Poix-du-Nord, où se trouve leur entreprise ECCE, entreprise de confection et de commercialisation européenne. Alors voilà, dans cette entreprise, depuis fort longtemps, elles y fabriquent des costumes, de la couture de très grande qualité, de la confection de qualité. Et puis, cette entreprise est devenue sous-traitante du groupe LVMH. Mais voilà que, scénario tout à fait classique. En France, le coût d'un costume bien cousu, bien construit, on dit construit, est autour de 110 euros de coût de revient. Et dans où vous voudrez, en Pologne, en Roumanie ou en Bulgarie, c'est 30 euros pour des costumes qui sont en moyenne revendus autour de 1000 euros. Voilà. Alors évidemment que dans ces cas-là, le patron de CCE est bien contraint de partir pour ces pays et de laisser ses ouvrières sur le carreau. Quel costume fabrique-t-elle ? Elle fabrique des costumes de marque Kenzo, très joli, très chic, Kenzo. Givenchy, très joli, très chic, Givenchy. Et tout ça, ce sont des marques du groupe prestigieux, premier groupe de luxe du monde, LVMH. Alors évidemment, ça la fout mal. Ça la fout mal au point de vue dialogue social, image de marque, etc. Or, elles se battent. Vous entendez Marie-Hélène Bourlard, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et là, ce jour-là, pour enfin, dialoguer avec ceux qu'elle considère comme les responsables de leur malheur et de ce sentiment de rejet, de mépris qu'on peut tout à fait comprendre et partager, elles arrivent à Paris. Certaines, vous allez le voir, ne connaissent pas trop cette ville. C'est grand, c'est beau, c'est bon, enfin bon. Voilà, l'important, c'est de rester dans le Nord, c'est de ne pas se faire virer. C'est d'essayer de vivre tout simplement et de travailler au pays. C'est donc leur lutte et leur destination. Aujourd'hui, la journée des actionnaires.
Voici pour vous, accroche à ton cœur, un morceau de chiffon rouge.
Pas de connard, hein.
Une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en montrant les poings et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas. Tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera ce que tu
joie.
Son empire s'appelle LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Bernard Arnault règne sans partage sur Dior, Givenchy ou Dom Pérignon et tout ce qui incarne le luxe dans le monde. Comment gère-t-il son empire? Comment est-il devenu la septième fortune mondiale?
Selon nos calculs, en 2005, il aurait perçu par mois plus de 9 millions d'euros, près de 13 000 euros de l'heure. Mais il n'admet pas que l'on puisse trouver ces sommes exagérées.
C'est plus amusant de dire « Monsieur Attel gagne autant et regardez ça, c'est beaucoup trop. » Voilà, ça c'est plus amusant à dire que « Regardez ce monsieur, bon d'accord, il gagne un peu, il gagne très bien sa vie, mais voilà le nombre d'emplois qu'il crée et voilà l'impact que ça a sur l'économie française. » Moi, c'est plutôt cet aspect-là qui me paraît nécessaire de mettre en avant, parce que la réussite d'un pays, je vous l'ai déjà dit, elle vient de la réussite de ses entrepreneurs.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà ce qu'on peut lire sur le Panthéon à Paris. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et quels sont ces grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante? Ce sont des hommes politiques, des scientifiques, des écrivains, des grands esprits, des chercheurs. Mais, on me dit qu'il n'y a aucun homme d'affaires. Il n'y a aucun businessman. Eh bien, il faudrait quand même y songer. Parce que si on écoute quelqu'un comme Bernard Arnault, voilà un grand homme auquel la patrie devrait être reconnaissante tant il développe notre pays, son image, l'image de notre pays, c'est-à-dire le luxe à travers le monde. Et puis le business, et puis les profits, et puis les emplois. Alors ça, sur la question des emplois, c'est lui qui le dit, mais voilà que ces 140 ouvrières, 147 ouvrières ne sont pas d'accord. Disent l'inverse, elles sont venues lui dire. Il n'a peut-être pas fait attention, il n'est pas au courant de tout quand on est à la tête d'un empire de cette dimension, et qu'on gagne 13 000 euros de l'heure, on peut parfois être un petit peu distrait. Donc voilà pourquoi elles sont venues à Paris dans l'espoir de le rencontrer. Elles sont dans le car et elles se dirigent vers la capitale.
Je disais qu'on avait fini de payer la maison il y a 5 ans et on n'a pas un sou de côté malgré pour ça. Hein. Je te jure, la vie elle est tellement dure, on a de plus en plus de mal.
Vous avez acheté votre maison?
Oui, je l'ai acheté il y a 20 ans maintenant. Hein. Et il y a 5 ans que je l'ai fini de payer. Quoi. Bon, quand on perd notre travail... Alors on va peut-être obligé de revendre la maison pour pas s'endetter, quoi. Parce que, bon, je voudrais bien la laisser à mes enfants. On a eu du mal à l'avoir, en plus. Mais j'ai une jolie maison. C'est vrai que on a travaillé pour l'avoir, tous les deux. Et c'est vrai que j'ai une jolie maison. J'aurais mal au cœur de m'en séparer. Et moi, j'aime tout. Je me plais chez moi. Enfin, je sais pas... Toi aussi, tu te plais chez toi. Bon. On s'est privé aussi pour certaines choses. Hein. Les vacances, je me souviens pas d'avoir été du reste. Mais bon, comme on se plaît à la maison, pour nous, c'est le soleil tous les jours. Hein.
Quand t'as plus de travail, tout ça, moi, je dis autant partir. Nous, on envisage de partir. Bah, du côté du midi...
Et là, tu trouves que là-bas, il y a plus de travail?
J'y suis déjà allé. Hein. Ils vivent pas comme nous.
Nous, dans le Nord, oui, ils sont plus cool. Nous, on est beaucoup plus speed. Moi, je ne quitterai pas ma région quand même.
Non.
Moi, ma vie, elle est ici. Je vois pas pourquoi je m'en irais.
Si t'as plus de travail, t'as plus rien.
Partir loin de toute votre histoire.
Ah oui. Hein.
Moi, je pourrais pas oublier tout ça. C'est pas possible.
Oui, parce que toi, t'es à fond dedans.
Mais même partir, comme tu dis, au soleil. Mais voilà. C'est pas sûr que la vie, elle est plus agréable au soleil. Hein,
Non, c'est pas ce que je veux dire. Hein.
Vous avez les yeux tout humides, toutes les deux, là, je...
Bah, vous savez, c'est dur, hein.
Ouais. Moi, je sais que dans notre chaîne, on s'entend bien. Ils cassent tout, de toute façon, ils cassent tout. Soit les chefs, ils cassent tout. Hein.
Les chefs cassent tout.
Quand tu vois qu'ils passent pour ramasser les machines qui vont s'en aller devant toi.
C'est-à-dire comme ils vont faire un atelier à la logistique, un atelier de production avec les prototypes et les collections. Et donc, ils sont en train de programmer ça. Et ils regardent les machines qu'ils vont prendre. Mais l'ouvrière est encore à sa machine. Et on met un papier sur la machine en disant « on va prendre cette machine-là ». Et l'ouvrière est encore dessus. Alors ça, c'est pas acceptable, quoi. Hein. Il y a des façons de pas faire, quand même. Hein. ça casse les gens, quoi. On est encore à nos machines qui sont déjà en train de mettre des collants en disant à garder la machine, mais pas l'ouvrière, quoi. Hein.
C'est parce qu'ils nous ont fait un coup quand ils ont fait ça. Hein. Ou alors ils auraient dû le faire, mais quand on n'était pas là. Le faire sans que l'ouvrière s'en aperçoit. Parce que bon, tu fais ton travail, tu penses pas tous les jours que t'es dans l'ambiance, donc tu penses pas que ça va fermer, t'es toujours...
On a toujours un espoir, voilà. Et on se bat pour ça. Avec les gamins, on avait du mal.
Parfois, en plein milieu d'une réunion, Bernard Arnault s'interrompt et vient jouer quelques notes.
De temps en temps, comme tout chef d'entreprise, il y a des soucis et puis c'est bien de les évacuer et de penser à autre chose. Ça permet d'ailleurs de garder les idées claires.
Nous ne sommes pas chez lui, mais au 7e étage du siège de LVMH. Son salon de musique se trouve juste à côté de son bureau.
Ça va, Karine ?
Le lundi, alors, la semaine du président commence toujours par le même rituel.
Très bien. Oui, ben, pas mal.
À 57 ans, il dirige en solitaire. Pas d'adjoint, pas de bras droit.
Bon, je vais regarder ça, puis après on fait le point.
Oui.
Comme d'habitude. Hein ?
Il consulte sa revue de presse.
C'est tout ce qui concerne le groupe LVMH dans les journaux du matin.
Tout ce qui concerne le groupe pendant le week-end. Oui, c'est mondial.
Ensuite, il appelle quelques directeurs des 52 sociétés de son groupe.
Alors, il faut qu'on fasse le point tout à l'heure pour voir exactement le planning qu'on va faire au Japon. Hein. Parce qu'il faut qu'on organise ça. On y est pendant 3 jours. Et Yokohama, on y va en voiture, hein, s'il n'y a pas trop de bouchons, ou en train. Hein.
Il parcourt le monde et garde un œil sur tous les chiffres. Des chiffres et des noms qui donnent la mesure de sa puissance.
Colin Froid, c'est un des surnoms de Bernard Arnault. Colin Froid, tant cet homme est calme. Prédateur, c'est pas un surnom, une qualification qui lui déplaît trop. Tant il est vrai que ces hommes, ces grands hommes d'affaires, deviennent peu à peu des héros. Parce que le parcours compte peu. On retrouve là une phrase celle célèbre. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, ce qui compte, c'est le résultat, c'est qu'il attrape les souris. Ben, les parcours de ces grands hommes d'affaires, grands businessmen, ces success stories sont pleines de machiavélisme, de cynisme, de coups bas, etc. Mais peu importe qu'on les déteste ou qu'on les admire, au fond, ça nous est assez indifférent. Oui, bon, ben voilà, ils s'enrichissent, et puis moi je m'enrichis pas, mais c'est leur truc. C'est leur truc, sauf au moment où ces enrichissements, cette puissance économique qui est la leur, a des incidences sur la vie de tous. Parce que la question de l'enrichissement, c'est que c'est en même temps un pouvoir qu'on a de plus en plus et qu'on exerce, évidemment, qu'on ne manque pas d'exercer et qui peut échapper au pouvoir politique. Quand le pouvoir économique n'est plus sous le contrôle du pouvoir politique, on peut s'inquiéter. Je dis ça parce que ça fait très longtemps que j'habite un quartier de Paris qui est tout proche de la Samaritaine. Voilà, c'est un quartier que je connais depuis mon enfance, on peut dire. Et ce quartier est complètement morne aujourd'hui. La Samaritaine, c'était une activité, une fébrilité, des tas de petits commerces, des tas de... Et aujourd'hui, ben, c'est fini, c'est vide, et on ne sait pas très bien ce que ça deviendra. Voilà un tout petit effet de l'enrichissement. C'est que le pouvoir de tous, le pouvoir politique, eh bien, n'a pas de pouvoir sur une décision économique concernant un quartier. Je pourrais bien prendre bien d'autres exemples, et celui-là, par exemple, celui du sort de ses salariés et de ses ouvriers et de ses ouvrières. À la Samaritaine, les ouvriers et les ouvrières ont été remerciés. Certains ont pris ça de travers, c'est même la majorité. Et voilà pourquoi, ce jour-là, on se retrouve avec Madeleine Chorton. Madeleine Chorton, elle est déléguée CGT de la Samaritaine et elle n'a pas raccroché.
Alors aujourd'hui, Madeleine Chorton,
vous allez nous aider à découvrir le monde merveilleux des petits actionnaires.
Oui, oh, le monde merveilleux. Merveilleux pour eux, mais pour nous, je crois qu'il n'y a pas beaucoup... enfin, en tout cas, j'ai pas beaucoup d'illusions, hein. Surtout sur LVMH, parce que, bon, je les connais un peu quand même. J'ai participé au comité de groupe. Comités de groupe, on rencontre tous les grosses têtes de chez LVMH qui viennent vous expliquer comment ils font pour gagner des millions et des millions d'euros. À des gens qui gagnent le SMIC, d'ailleurs, ils n'ont vraiment aucun scrupule.
Mais là maintenant, vous...
Ah ben là, maintenant, on franchit un pas supplémentaire. On va avoir accès, j'espère, parce qu'on n'est pas encore rentré, à Monsieur Bernard Arnault, l'homme invisible.
Mais ça, c'est parce que vous êtes devenu actionnaire.
Oui, j'ai pris une action à 86 euros, plus 14 euros de frais de banque, ce qui m'a coûté quand même 100 euros. Mais enfin, j'espère que ça vaut le coup et que... Je pourrais quand même m'adresser pour les salariés de la Samaritaine directement à M. Bernard Arnault, qui n'a jamais daigné prendre part à aucune de nos réunions. En tant que salarié, on n'a jamais pu le voir, jamais. Mais en tant qu'actionnaire, on espère peut-être. Alors allons-y.
Portez du LVMH, là, sur vous ?
Alors, absolument rien d'LVMH. J'ai vraiment pas les moyens. Hein. C'est pas avec le SMIG.
Comme pour l'ascenseur.
Alors, je risquais pas de m'habiller. je risquais pas de m'habiller chez LVMH.
Donc, vous êtes habillée à la Samaritaine, là ?
Non plus. Non, pas du tout. Je suis habillée chez PK pour la robe. PK, oui, c'est des magasins pas chers dans le métro à Paris. Je sais pas si ça existe peut-être pas en province. Bonjour.
Je porte la plupart du temps des marques de mon groupe. Oui, aujourd'hui c'est du Dior, quelquefois c'est du Vuitton.
Par exemple, là, vous êtes habillé comment ?
J'ai des souliers Berluti, un jean Dior, une chemise Dior. Tester les produits soi-même, c'est quelque chose qui vous permet d'être en contact physique avec ce que vous vendez. Ça, c'est mon sac de voyage.
Vuitton est le fer de lance du groupe, l'une des sociétés qui lui rapporte le plus d'argent. Clients aisés, prix élevé, marge record, jamais de solde. Ici, un sac en milieu de gamme se vend 1770 euros. Et c'est du Made in France, un argument apprécié des clients.
Et puis ma veste, je l'ai achetée à la fête de l'humanité il y a 5 ans. Dans un stand péruvien. Il n'y a que les chaussures. C'est vrai que les chaussures, elles viennent de la Samaritaine. Je les avais achetées en période de promotion pendant les 4S. Les 4S, c'était des périodes promotionnelles dans les grands magasins. La Samaritaine, ça s'appelait comme ça. Au bon marché, c'est les TBM. Au printemps, c'est les...
Bonne journée, au revoir. Et ça fait combien de temps que vous avez travaillé à la Samaritaine ?
Ben, je suis rentrée en 68, ça va faire 40 ans l'année prochaine, si je suis encore là, parce que pour l'instant, je suis en procédure de licenciement, donc...
On descend à quelle station après, vous savez ?
Non, faut qu'on sorte à Palais Royal. Je pense qu'on devrait changer la République. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'ils vont faire là tout un quartier de grand luxe dans Paris. Et ça sera sûrement le plus grand quartier de luxe d'Europe, ça c'est sûr. Mais peut-être aussi du monde parce que j'ai pas voyagé en Amérique, mais je suis pas sûre qu'il y ait l'équivalent. En plus c'est en plein centre de Paris. Là vous avez le Louvre. Là, vous avez Notre-Dame. Derrière, là, vous avez le Châtelet. Là, de l'autre côté, vous avez le Forum des Halles qui va être complètement refait aussi. Donc, ça sera vraiment un endroit pour les riches, bien sûr.
Alors, là, il y a le Pont Neuf. Le Pont Neuf, c'est donc le plus vieux pont de Paris, malgré son nom.
Le plus vieux pont de Paris, c'est là qu'a débuté Monsieur Cognac sur le Pont Neuf avec un parapluie. Il vendait comme ça, la criée, des articles bon marché à l'époque. C'était en 1870. Donc ensuite, eh ben, il a traversé, il a acheté ici une petite boutique qu'il a ouverte et c'est là qu'il a commencé à vendre. Il a avec sa femme qu'il a été chercher au bon marché, puisqu'elle était vendeuse au bon marché, elle. Et c'est là qu'ils ont commencé vraiment à monter ce qui est devenu après la Samaritaine.
Il n'a pas commencé sa carrière dans l'industrie du luxe. Sorti de Polytechnique, ce fils de bonne famille du Nord a transformé l'entreprise de travaux publics de son père en société immobilière. Les maisons Ferrinel, c'était lui.
Chérie, qu'est-ce que tu fais ?
Bah, je vais te sortir du propriétaire.
Mais son premier coup d'éclat a lieu en 1984. Il a 35 ans. Avec l'accord du gouvernement Fabius, il promet de redresser le groupe textile Boussac et de sauver les emplois. Trois ans plus tard, il fait tout le contraire. Licencie, revend Boussac par petits bouts et garde un joyau, la maison de couture Dior. Dior, une marque qu'il valorise et qui fonde son empire du luxe. Deuxième coup financier en 1989. Les deux patrons de Louis Vuitton et de Moët&Cy l'appellent en renfort pour contrer une OPA hostile du groupe anglais Guinness. Avec le sourire et sous les flashs des photographes, Bernard Arnault vole à leur secours. Puis il fait volte-face. Il s'allie à l'ennemi Guinness pour prendre seul le contrôle de LVMH.
Alors expliquez-moi, parce que moi là j'ai Gaston entre les mains.
Ouais, on va dire un mannequin, quoi. C'est un bout de bois qui sert de corps. La tête est représentée par un squelette, on va dire. Les yeux habillés de deux billes. Petite chemise, hein, faite par nous. Hein. Voilà.
Petite chemise blanche.
Petite chemise blanche. La cravate était faite par un petit bout de tissu, petit bout de doublure.
C'est quoi ?
Du tissu qu'elle a fait. Elle faisait des gilets, des chemises.
Alors Gaston, il dit quoi, à votre avis ?
Gaston, il dit « Donnez-nous du boulot ». Il veut rester à Poix du Nord, Gaston. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là ?
Ils ont mis Made in France.
Ils ont mis Made in France.
Ils ont mis un petit drapeau français en fait sur la poche du costume devant.
Les manches, elles sont pas rembourrées. Si. Ah si, ils ont mis des épaulettes, tout. Tout est mis, les épaulettes, on a fait les boutonnières, là il y a le montage manche.
Une des opérations la plus délicate du vêtement.
Les deux manches pareilles. Bon, nous, on les monte maintenant comme ça parce qu'on a l'habitude, mais...
Parce que quand on regarde un vêtement dans un magasin, vous regardez les manches et les revers.
Hein, portable.
C'était une...
Allô, François ?
François, ben j'arrive.
On arrive, là.
Ben bon, hein, on est dans les temps. Hein.
Quelle heure il est ?
9h30. Je crois que l'Assemblée, c'était 9h30, non ?
C'était l'Assemblée, 10h30.
Ouais, ben c'est bon, on est dans les temps. Bernard Arnault, nous voilà.
Bernard Arnault, nous voilà, dit Marie-Hélène Bourlard, avec toutes les ouvrières, une centaine des ouvrières de cette entreprise ECCE, donc qui craignent, redoutent un licenciement et qui donc arrive à cette assemblée des actionnaires, l'assemblée annuel des actionnaires de LVMH. Pour cela, je le rappelle, c'est possible pour chacun. Hein. Il vous suffit d'acheter une action et vous devenez actionnaire. Et vous pouvez assister à une assemblée d'actionnaires et vous pouvez poser des questions. On doit vous répondre et c'est ce qu'elles vont faire. Alors, c'est peut-être pas des questions très, très attendues par les organisateurs et par la direction de cet important groupe de luxe, les LVMH, mais c'est évidemment, c'est le but de la manœuvre.
C'est pas facile d'approcher Bernard Arnault. Et c'est François Ruffin, un journaliste de France Inter, qui m'a dit la date de l'Assemblée Générale des Actionnaires. Donc elle dit, on a dit, bah, ça serait bien qu'on va vers eux, vu qu'ils ne viennent pas vers nous. J'ai pris une action pour pouvoir rentrer à l'Assemblée Générale. Hein. Ça m'a coûté quand même 86,10 € l'action, hein, plus des frais de poste, enfin une ouverture de compte, tout ça. J'ai dépensé 118 € et quelque chose. Mais c'était pour pouvoir rentrer à l'Assemblée Générale des actionnaires et puis dire tout haut ce que j'ai envie de dire. Quoi.
Et votre banquier, il a dit quoi quand vous êtes allé acheter l'action?
Elle m'a regardé tout bizarrement. Elle me dit une action, mais vous ne voulez pas plus? J'ai dit non, une. Elle dit c'est pas votre genre acheter des actions. Ben, j'ai dit, il faut changer dans la vie, hein. Maintenant, je vais être actionnaire. Et moi, à mon avis, j'avais pas la tête à avoir des actions. Il faut être bien présentable, sûrement. Ceux en costume comme le 440, quoi. Hein, tous ses amis.
Qu'est-ce que vous allez faire des dividendes que vous allez avoir?
Je vais sûrement les dépenser, hein, parce qu'un ouvrier dépense tout. Hein. C'est pas qu'il est dépensier, mais on a tellement du mal à arriver que nos salaires passent dans la vie courante de tous les mois, quoi. Et c'est sûr que un actionnaire, lui, il mettra plutôt de côté. Tandis que nous, on a du pouvoir d'achat, on achète pour nos enfants, pour la famille, quoi. Nous, on fait vivre l'économie. Moi, j'aimerais demander à LVMH, Bernard Arnault, j'espère que je le verrai, qu'il revienne sur son contrat, qu'il revienne et qu'il nous donne des pièces à fabriquer à Poix du Nord. Que les filles de CCE, les ouvrières, les petites mains, qu'ils ont tant travaillé pour Kenzo, donc leur griffe, Givenchy, elles sont là, elles attendent qu'ils sortent, au moins, qu'ils nous regardent en face. Nous, on voudrait le voir pour dire, voilà, il y a ici 147 ouvrières et on ne veut pas se retrouver demain au chômage.
Et aux actionnaires?
Je pourrais me retourner aussi sur eux et dire, est-ce qu'ils n'ont pas honte de ramasser de l'argent alors que 147 vont être sur le carreau? Est-ce qu'ils n'ont pas une conscience? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Je ne sais pas comment je serai devant eux, mais je vais oser parler. Hein, je ne vais pas avoir peur, ce n'est pas qu'ils me font peur. Hein, parce qu'ils s'en sont mis plein les poches quand même grâce à nous. Hein, donc ils nous doivent quelque chose en retour.
Vous avez une idée de ce que leur apportent les actions ou pas?
Ben non, parce que nous, on ne baigne pas là-dedans. Pour nous, les actions, ça ne veut rien dire. Nous, on fournit un travail, on est payé. C'est ça, fruit du travail. Et moi, je veux qu'on continue à travailler pour pas que ces gens-là tombent dans la misère. Parce que c'est ça qui nous attend derrière. On est dans un bassin d'emploi où il y a 14% de chômeurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner à faire? Donc c'est ça qui est dramatique. Tout ce qu'on nous propose, parce qu'il y a une cellule de reclassement qui est là depuis 2003, et tout ce qu'ils nous proposent, c'est l'aide à la personne. Hein, bon, c'est bien gentil de nous dire ça, mais tout le monde n'aime pas. Et puis, c'est des temps partiels. On gagne même pas 1000 euros avec ça. Hein, c'est ça qu'ils nous proposent? Non. Ça, non.
Peut-être vous pourriez demander à tous les actionnaires s'ils n'ont pas des petits boulots à vous proposer.
Ah bah oui, je vais leur demander aussi. Pourquoi pas? Jardinier, peut-être. Ou pour nettoyer leur piscine. Ou pour garder leurs mômes qui sont infernales. Peut-être promener leurs chiens aussi, hein, parce qu'en Amérique, les boulots qu'on propose, c'est d'aller promener les chiens des actionnaires. Vous vous rendez compte? Ou est-ce que jusqu'où on y va, là? Je n'irai pas, je vous le dis tout de suite. Non.
Vous ne ferez pas, Marie-Hélène, un petit chien à promener?
Bah non, hein. Je ne suis pas leur bonne. Hein. Moi, je suis bien dans mon monde d'ouvrier. Au moins, on sent la valeur des gens. Hein.
Vuitton, Guerlain, Céline, Chomet sont à lui. Les stars d'Hollywood, les mannequins vedettes participent au défilé de ses maisons. Dior, Kenzo, Givenchy. Il a investi dans les montres, bijoux, champagne, cognac, Grand Cru. Il a transformé LVMH en usine à rêve et en machine à dividendes. Succès planétaire, rentabilité exceptionnelle.
Tony Blair, je crois, qui rêvait que ces grands hommes d'affaires deviennent aussi populaires que des joueurs de foot. Eh ben, on y va doucement. Peut-être pas aussi vite que certains le souhaiteraient, mais ça se fera sans aucun doute. En attendant, certains ne sont pas entièrement heureux. Tout ça ne satisfait pas évidemment tout le monde. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et nous, on est un petit peu du côté des œufs, là, aujourd'hui, avec François Ruffin et Pascal Pascariello. Alors là, on est à la Samaritaine, à Paris, avec ceux qui n'y sont plus, à la Samaritaine.
On passe dans les rues, bon, il y a le bruit des camions de CRS qui passent avec leurs pimpons, des gendarmes qui passent avec leurs pimpons. Mais sinon, c'est très silencieux.
C'était devenu très silencieux. Avec l'arrivée de Bernard Arnault, enfin de la LVMH, hein. Là, ça a été une envolée de moineaux au niveau de la clientèle. Hein. Tous les clients de la Samaritaine ont disparu. Hein. Et comme les nouveaux, on ne les a jamais vus arriver. Donc ça, c'est sûr que pour être au calme, on était au calme. Mais moi, j'ai connu l'époque glorieuse de la Samaritaine quand je travaillais notamment au rayon jardinage qui était juste à l'entrée du métro. Je peux vous dire que quand on ouvrait les portes le matin à l'entrée du métro, vous ne pouviez pas traverser l'allée. Parce que tellement il rentrait de clients, quoi. C'était quelque chose, c'était de
vous auriez risqué fabuleux. De mourir écrasé. C'était le stade du Hazel, la Samaritaine.
En tout cas, c'était un peu comme dans une manif, quoi. Vous risquiez d'être bousculé ou... Voilà, donc on attendait. Fallait bien attendre une demi-heure que, après, bon, ça rentrait plus régulièrement. Mais là, ils étaient tous agglutinés derrière les portes. Ils attendaient que ça ouvre, comme...
À 9h30, il y avait énormément de monde. Après, à la fin, il y avait 4 personnes qui attendaient dans les années 2000. Il y avait 4 personnes qui attendaient, puis c'était fini.
Et comment vous avez appris alors la fermeture du magasin? Comment ça s'est passé?
Ben, nous, on l'a appris au comité d'entreprise, hein, en réunion, du jour au lendemain. Mais moi, personnellement...
Tu es revenu du CHSCT et tu m'as dit... Après, on avait le CE. Et Madame m'a dit, c'est même pas la peine d'aller au CE parce que le magasin ferme la semaine prochaine, le 15. Donc là, on va prendre les mégaphones et on va faire tous les étages du magasin. Et en faisant les étages, les employés nous disaient « Mais vous êtes complètement malade, vous avez perdu la tête, ne dites pas des choses comme ça. » Ils ne voulaient pas le croire parce que c'était le jeudi et quelques jours après. Le 9 et 6 jours après, le magasin fermé. Donc il a fallu commencer les prévenir...
En 6 jours.
Remarquez, ils l'ont fait fort, hein, parce que sans vague, ils n'ont rien. En 6 jours, ils ont fait partir 1500 personnes en 6 jours. Donc le groupe LVMH, franchement, un jour j'ai dit que c'était un rouleau compresseur du social et du personnel, mais vraiment, ce jour-là, je ne me suis pas trompé. Hein.
Normalement, une usine de 1500 personnes, ça met un peu plus de temps à fermer, à arrêter les cheminées et tout ça.
Ils ont trouvé la stratégie qu'il fallait. Ils ont dit qu'il y avait l'insécurité dans le magasin, donc on pouvait, à la limite, c'était difficile de mettre quand même des gens en péril, à la limite. Donc ils ont vraiment trouvé le moyen idéal pour faire la fermeture.
Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
C'est qui chante ça?
Gilbert Bécaud.
Ah, Gilbert Bécaud, ouais. D'accord.
Bon, ben, c'est gay quand même dans l'autocar, hein. C'est gay. On va à Paris, après tout, c'est une sortie, on s'est fait belle, etc. Mais surtout qu'il y en a une qui est devenue actionnaire, et c'est pas rien, et c'est Marie-Hélène Bourlard. Et ben voilà, il faut se dépêcher maintenant parce que l'Assemblée des actionnaires va commencer.
Donc moi, comme j'ai une convocation, je vais rentrer à l'intérieur et je vais essayer, je dis bien essayer, d'inviter Bernard Arnault et ses actionnaires de sortir. D'abord, on va se faire entendre. J'espère que vous crierez toutes vos forces. Enfin, pas maintenant, quand on va être devant la porte.
Hein.
J'essaierai d'inviter Bernard Arnault, s'il veut bien me suivre. À vous rencontrer. Hein, nous, tout ce qu'on veut, c'est du travail. On veut qu'il change le contrat. Alors, quand je serai à l'intérieur, n'hésitez pas à crier. Hein. Je vous fais confiance. Du travail. Ah mais moi je reste toujours calme hein. Hey, n'oubliez pas que maintenant je suis actionnaire.
Ah ouais. Allez, bon courage à Marie-Hélène.
Bah, vous nous suivez hein.
Ah oui, hein.
J'ai le cœur qui bat. Je voudrais bien être déjà à l'intérieur. On verra bien. Hein. Donc c'est ici.
Je crois que c'est ici l'entrée. Et après, normalement, c'est fléché. Donc, on va...
D'accord.
Excusez-moi, bonjour. On cherchait l'assemblée, l'assemblée des actionnaires. Tout droit au fond. Vous avez vos papiers, Marie-Hélène, d'actionnaire?
Oui. Oui. Pour être à l'intérieur de cette assemblée générale.
Allez-y vite avant qu'il ferme. Et pourquoi vous lui fermez la porte? Cette dame est actionnaire. Cette
dame actionnaire, moi. Attendez, je suis actionnaire. J'ai quand même le droit d'être à l'intérieur. Allez-y. Attendez, je ne veux pas être bousculée, monsieur. Je suis actionnaire.
Allô, François. Elle est rentrée en dernier. On fait tout fermer parce qu'on a lavé les banderoles, mais elle est là. Voilà, elle est à l'intérieur. Bon, à tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Ça, vous êtes impatient, mais vous le saurez demain. Il y en a un qui n'a pas réussi à entrer quand même, parce qu'il n'est pas actionnaire. C'est Robert Barra, le maire d'Aulnay-Aymeri. Ça s'est mal passé.
Qu'est-ce qui se passe là?
Bah, y a le... C'est le maire d'Aulnay-Aymeri qui a voulu rentrer dans la salle de l'Assemblée et les vigiles l'ont empêché de rentrer. Je ne sais pas, je n'ai pas vu s'ils l'ont frappé ou pas, mais il s'est retrouvé à terre.
Monsieur le maire,
oui.
On vous a quasiment mis par terre?
Non, on m'a mis par terre, pas quasiment, madame. On m'a jeté par terre comme un malpropre. Vous savez, les violences, on voit où elles sont, quoi. On voit où sont les violences. Nous, nous sommes venus ici normalement défendre l'emploi, et vous avez vu de quel côté sont les violences aujourd'hui. Mais enfin, vous savez, être par terre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les femmes gardent leur travail. Le reste après. Je suis maire de la commune de Aulnay-Aymeri, vice-président au conseil général, et je viens défendre mon territoire, je viens défendre les salariés. Nous avons le taux de chômage le plus élevé de France et un territoire qui est frappé fortement par la détresse. On vient simplement s'expliquer et regarder comment on est reçu, quoi. Donc aujourd'hui, défendre son emploi, apparemment, c'est interdit. Ces femmes qu'on appelle les femmes au doigt d'or, qui font les plus belles collections de France, et je crois qu'elles méritent d'être traitées différemment. Elles gagnent le SMIC, elles sont là depuis 30 ans, et je pense que Bernard Arnault ne peut pas, comme ça, d'un coup de baguette, dire « c'est tout, vous disparaissez, je m'en vais ailleurs, parce que le costume va coûter 30 euros en moins ». C'est humainement pas acceptable.
On attend toujours Monsieur Bernard Arnault.
Demain, on va l'attendre jusqu'à demain. Merci à tous. Merci à Robert Barra, le maire d'Aulnay-Aymeri. Merci à Madeleine Charton et aux licenciés de la Samaritaine. Merci à Marie-Hélène Bourlard et aux ouvrières de l'OCCE. C'était un reportage de Pascal Pascaliello et François Ruffin. À lire Portrait de l'homme d'affaires en prédateur par Michel Villette et Catherine Villermeau aux éditions La Découverte. Et L'Ange Exterminateur, si vous le trouvez encore, par Éric Routier aux éditions Albin Michel. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission de la Bassie J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site non officiel de la Bassie J'y suis, là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Éric Morin et Pierrick Mossigny. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert attend vos messages auprès du répondeur de la Bassie J'y suis, dont le numéro est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.
On attend toujours, monsieur.